Au programme ou au menu, on ne sait pas, cette semaine, la détention, l'homosexualité, l'affection pour les animaux, la danse. Jeudi, nous rejoindrons le quartier des femmes d'une maison d'arrêt. Raphaël Kraft a confié à plusieurs d'entre elles un enregistreur pour que nous partagions leur point de vue, ou plutôt d'écoute, sur la vie en détention. Mercredi, nous suivrons l'enquête de Stéphane Bonnefoy sur la possibilité d'une bénédiction pour les couples homosexuels dans le cadre de l'Église protestante. Entre le temple de Nice et celui du Marais à Paris, les conceptions divergent. Mardi, Vinciane Mechler nous fera entendre les liens de Akira Mizubayashi et Olivia Rosenthal au monde animal.
Et aujourd'hui, Cap sur Marseille.
Oui, c'est un documentaire proposé en première diffusion par David Collin sur la RTS. Il raconte une aventure née en 1989 dans l'école de la Bricarde des quartiers nord de Marseille, où Josette Baïse était en résidence. Là est née une délicieuse compagnie de danse qui porte le nom de Grenade.
Quand on monte sur scène, en fait, en quelque sorte, on est des artistes un peu, parce qu'on va représenter des personnages précis, en fait.
Mais c'est vrai que je me sens toujours habitée, en fait, quand je danse.
Je ressens vraiment parce que je ressens ce que Alice, elle ressent dans son cœur. 5, 6, 7.
Josette, elle veut vraiment montrer que les enfants peuvent donner autant que des adultes.
Ouais. 7, 8, 1, 2, 3.
Ils se sentent créateurs de leur mouvement. Ils sont en train de comprendre ce qu'ils dansent et du coup, ils deviennent vraiment des artistes.
Ils sont environ 50. 50 enfants, jeunes danseurs, dans le groupe Grenade, âgés de 8 à 18 ans. Là, ils font une pause dans leur studio. Ce sont trois grandes belles salles lumineuses dans un bâtiment de plein pied dans les quartiers sud d'Aix-en-Provence. Ils viennent deux à trois fois par semaine s'entraîner aux cours de danse contemporaine, classique et hip-hop. Et puis surtout, ils préparent les spectacles. Car Grenade, c'est un centre chorégraphique pour la jeunesse tourné vers la création. Un lieu unique en France, fondé en 1992 par la danseuse et chorégraphe Josette Baïse. 6 ans plus tard, elle crée la compagnie Grenade, la compagnie professionnelle des 18-25 ans. L'histoire de Grenade débute dans les quartiers nord de Marseille.
Les cultures étaient tellement différentes et les enfants venaient tellement de tous les coins du monde que ça nous a vraiment interpellés. On avait l'impression d'avoir la planète entière représentée dans un seul quartier, dans une seule école. Et c'est ça qui a vraiment bousculé ma façon après d'entrevoir la danse. Parce que depuis ce moment-là, j'ai travaillé sur les cultures. C'est-à-dire, je ne me suis pas bornée à la danse contemporaine, mais j'ai travaillé avec les enfants, les petits garçons qui faisaient du hip-hop, les filles qui faisaient de la danse flamenco, la danse orientale, les chansons turques. Enfin, il y avait un mélange absolument formidable qui a fait qu'à un moment donné, mon parcours, qui était quand même typiquement contemporain, s'est renversé pour devenir autre chose.
Et comment ça s'est articulé concrètement dans la danse, tous ces éléments, à ce moment-là déjà?
Alors, ça s'est articulé de la manière suivante, c'est que moi, dans mon travail avec les enfants, je fais ce qu'on appelle des ateliers d'improvisation, en plus de la technique et de la composition. Donc l'improvisation fait qu'on échange les danses qu'on a. Et du coup, évidemment que quand moi je leur proposais de la danse contemporaine, ben, c'était moi qui avais le dessus, j'ai envie de dire, qui tenait les rênes. Mais par contre, quand ils me proposaient du hip-hop ou quand ils me proposaient de la danse africaine ou orientale, voire cambodgienne, parce que j'avais beaucoup d'asiatiques, à ce moment-là, moi j'avais l'impression d'être complètement néophyte. Je devais tout réapprendre. Et c'est ça que j'ai apprécié. C'est que je repartais de zéro pour me réinventer au travers de ces enfants-là.
Et c'est quelque chose qui caractérise toujours ce qu'on appelle le style Grenade.
J'ai eu la sensation que dans mon corps se mélangeait énormément de cultures. Et c'est ça qui a fermenté, on va dire, le groupe Grenade. Parce qu'il y a un mélange de travail très contemporain dans le sol, avec des éléments de hip-hop et plus particulièrement de smurf. Il y a de la danse classique quand même. Il y a vraiment toutes sortes d'ingrédients, mais qui se sont fondus. Ça s'est fondu en une seule énergie qui est maintenant la mienne. Donc du coup, c'est ce que j'essaie de donner aux enfants. C'est un style qu'on a créé, on a mis 10 ans pour le créer.
Quelles ont été les étapes de la création de ce style, si on peut les définir ?
En réalisant des spectacles d'une heure, il fallait se poser les questions autrement. Parce qu'il y avait à la fois le propos artistique qui devenait important, et en même temps, il y avait effectivement le style. À l'époque, on ne savait pas encore qu'on avait un style. On ne l'avait peut-être même pas encore. On juxtaposait beaucoup, mais comme j'avais toujours les cours, je donnais toujours les cours de contemporain, du coup, les choses se mélangeaient, se métissaient peu à peu. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le métissage de Grenade. Et c'est peu à peu qu'on s'est rendu compte, au bout de bien 7 ans de travail acharné, qu'on avait fondu les matériaux les uns dans les autres. Et c'est ça qui s'est passé. On ne l'a pas fait exprès. C'est quelque chose qui est venu progressivement parce que, à force de travailler ensemble, on a défriché un nouveau style qui s'est révélé être un style que les gens aimaient bien parce que c'était assez nouveau finalement.
Mathieu, je t'ai vu. Alia. Lola, elle est en tournée, non ?
Oui.
Charles, je crois que je t'ai vu. Il y a quelqu'un, il faut passer de l'autre côté. Quelqu'un va lui ouvrir, s'il vous plaît.
Lilou.
Ah, c'est carrément fermé à clé ? Ben, il faut passer de l'autre côté. Ah oui, Lou, je t'ai vu. Voilà, c'est toi. Élise, je t'ai vu.
Donc, je m'appelle Sinate, c'est mon prénom. Voilà, je suis dans la compagnie de Josette depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Ça a été une très très belle rencontre. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans un quartier nord de Marseille, l'un des pires, on va dire, oui, carrément. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée dans mon école de la Bricarde. Et donc, on était toute une communauté de Cambodgiens qui vivaient à Marseille, dans ce quartier-là. Mais il n'y avait pas que nous, il y avait aussi... toute origine, quoi. Des Comoriens, des Algériens, des Marocains, enfin voilà, des Gitans, enfin il y avait de tout. Et franchement, c'était pour moi une très belle époque parce que j'en ai gardé que des bons souvenirs. C'était génial. Et puis, il y a eu la rencontre avec Josette. Ça a été le coup de foudre. Je savais pas que j'aimais danser et en fait, elle m'a donné ce goût à la danse. Josette m'a demandé si je voulais faire ça, mon métier, tout ça. Et j'ai dit oui. Donc à 16 ans, elle m'a embarquée dans sa compagnie, qui s'appelle la Compagnie Grenade. Et depuis, j'y suis restée. Voilà.
Comment a changé la danse votre vie, Sinate ?
Oui, elle a changé ma vie, parce que je pense que déjà, je n'aurais jamais connu tout ça. Peut-être que j'aurais fait complètement autre chose, ça, certainement même.
Ah bah alors, je suis Monique Brun, je m'occupe de l'administration du groupe Grenade. Qu'est-ce que ça représentait ? Déjà, c'était une sacrée rencontre, quoi, parce que c'était des enfants qui avaient une énergie folle, et puis qui étaient investis naturellement. Enfin, ils avaient un rapport à la danse et au mouvement vraiment naturel, comme s'ils avaient fait ça... je pense d'ailleurs qu'ils le faisaient depuis tout petit. Hein. Et puis... Beaucoup n'étaient jamais sortis de la cité. En fait. Ils n'étaient jamais allés dans le centre-ville et du coup, ils étaient très, très assoiffés de connaître autre chose. À la fin, il n'y avait pas envie de les laisser. On n'avait pas envie de les laisser. Enfin, Josette était complètement investie, mais j'étais dans le même état d'esprit qu'elle sur le fait qu'il fallait absolument trouver un moyen de pérenniser cette aventure. Il y en avait quelques-uns pour lesquels c'était... C'était leur vie, quoi, qui se jouait là.
On y va. Pieds parallèles. Alors, on plie, on s'enfonce. Les talons autant que les orteils. Et de là, on repousse et on attrape le genou. Il pend dans les bras, donc les bras sont tirés par le bas. Et on va monter le genou sans monter les épaules.
Ça a été quelque chose que vous intéressait très rapidement de travailler avec des enfants ?
Bah, moi, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que j'ai commencé même en travaillant avec des enfants, parce que moi, j'ai commencé la danse très tard. J'avais 21 ans. Bon, j'ai toujours dansé pour moi, comme les enfants de quartier chez moi, mais en tout cas, pas de cours ni rien. Et après, j'ai voulu rattraper le retard. Et dès que Odile Duboc, qui était mon prof, m'a dit « il faut que tu fasses une pièce avec les enfants », j'ai dit « t'es bien gentille, mais je n'ai pas frappé devant l'autre, donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire comme pièce ». Et dès la première pièce, c'était incroyable, les gens applaudissaient à tout rompre, et ça, je ne comprenais pas, parce qu'on faisait tout... Enfin, c'était vraiment ce qu'on ressentait, il n'y avait pas de technicité derrière, il y avait pas de... et pourtant ça marchait. Donc j'ai commencé pratiquement, moi je ne savais presque pas danser, que déjà je faisais danser les enfants. C'est un peu inversé. Et du coup j'ai toujours fait ça, parce que c'est quand même au bout du compte avec eux que je me sens le plus à l'aise. J'adore travailler avec les petits, moi ça me plaît. J'ai l'impression qu'il y a une innocence dans le travail, une espèce de fraîcheur qu'on ne retrouve plus après.
Pourquoi ça se perd?
Bah parce qu'après, on a des filtres mentaux, comme je dis ça souvent, c'est qu'on réfléchit. Alors, on réfléchit à qui on est quand on est plus adulte, à quelle image on a, à qu'est-ce qu'on va donner, etc. Donc, il n'y a pas une transmission immédiate. Il y a une transmission presque mentale et intellectuelle avec l'adulte. Alors que l'enfant, il tente. Si ça passe, c'est bien. Si ça casse, il le dit. Mais on sait où on en est et il n'y a pas une espèce de maturation mentale très longue avant l'acte. Il passe à l'acte et c'est ça, moi, c'est ça qui me plaît. Après, je vous dis, hein, parfois, il y a des choses qui ne leur plaisent pas. Hein. Quand les filles, elles n'ont pas aimé Albert Richard, elles l'ont dit. Hein. Donc ça, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que forcément, on n'est pas à 25 ans comme on est à 10, hein, ça c'est sûr.
2011, Grenade à 20 ans. Pour Josette Bailly, c'est l'occasion d'ouvrir le répertoire des jeunes danseurs. Elle fait alors appel à des chorégraphes français de renom. Très simplement, Prel Jocage, Jean-Christophe Maillot, Kéléménis, Découflé, Abou Lagra et Jérôme Bell répondent à l'invitation. Les jeunes danseurs doivent s'adapter à des esthétiques différentes et affirmées. De leur côté, les chorégraphes assistent à une relecture de leur travail par les enfants. Les 20 ans de Grenade, un panorama éclectique de la danse contemporaine des années 80 à nos jours. Et le premier à collaborer avec le groupe Grenade, c'est Jean-Claude Galota, en 2003.
Tout ça qui faisait beau. Tu te souviens de ça? Tu te souviens? Tu te souviens pas? Tu te souviens pas?
On a fait trois générations d'abord, où il y avait trois séries de danseurs, des petits, des adultes et des papy-mamies qui faisaient la même chose. On a fait un truc formidable avec lui. Après, on a monté Ulysse qui a tourné 4 ans. Après, on a tourné Mamam qui a tourné 3 ans. Donc, c'est une longue histoire. C'est grâce à lui si on en est là. C'est grâce à lui. Parce que c'est lui le premier qui m'a appelé en me disant « Josette, je te fais confiance, tu fais la partie des enfants. » Ça m'a lancé dans ce travail de chorégraphe. Avant, j'aurais jamais osé faire ça. Donc, très bien, quoi.
Tu te souviens de tous ces gens? Tu connais? Tu te souviens de la miracle de Kélan? Tu te souviens de son nom? Tu te souviens de moi?
Alors moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai travaillé une série de pas, de sections, avec mes danseurs. Donc c'était la partie du milieu, la partie des adultes, on va dire. Et ça servait de matrice... aux enfants et aux seniors. Donc, du coup, je sais que Josette est venue voir aussi la matrice avec les danseurs. Et puis, elle me disait, mais ça, ils peuvent le faire, les enfants. Ça, ils peuvent pas le faire. Ça, c'est trop charnel. On peut le détourner autrement. Et elle avait tout un lexique, tout un code que j'ai trouvé extraordinaire pour que, justement, puisque c'est ça l'interprétation au fond de la vie, c'est on a une chose de racine, et puis après, c'est chacun qui amène son dialecte, sa façon, son accent. Et donc, elle m'a donné tout le pouvoir des enfants, en fait. Donc, elle a pu imaginer la chorégraphie adaptée. Alors, on la reconnaissait, mais elle était faite par les enfants, ou en tout cas, quelqu'un qui avait une lecture de l'enfance. Et j'ai fait pareil pour les seniors. J'ai adapté, parce qu'il y a des sauts qu'il ne pouvait pas faire, donc il les marquait à peine, mais on voyait. Et ce qui était intéressant, du coup, c'est que les gens voyaient à la fois l'écriture de la danse, c'est-à-dire quand ils arrivaient au senior, ils connaissaient la chorégraphie, le spectateur connaissait la chorégraphie, ce qui est rare, souvent, on ne sait pas ce que c'est la chorégraphie, l'écriture de la chorégraphie, parce qu'on voit les choses une fois, et puis on voit l'énergie, donc on ne se rend pas bien compte de la composition. Là, il voyait la composition. Il voyait l'histoire de la danse aussi. Quand on commence, quand on finit, est-ce que ça a une frontière ou pas? Et aussi, bizarrement, mais ça, je ne l'avais pas autant perçu, c'est que les gens voyaient aussi l'histoire de la vie, quoi. De l'aube à la fin, comme ça, en une heure et demie, ils traversaient où est-ce qu'on est, finalement, avec nos corps, nos gestes, qui commencent et qui terminent. C'est Ulysse, en fait, qui a été très important, oui, oui, oui. Mais il fallait une base, d'une part pour que ça tienne solidement, et puis aussi pour que ça donne la direction. Donc, Josette, ça, elle l'a compris. Et du coup, quand j'ai vu les enfants, pour moi, c'était réussi. C'est-à-dire que je me dis, tiens, une chose, elle peut être interprétée. Et donc, l'interprétation, c'est exactement comme un morceau de musique. On peut le faire avec un grand orchestre, on peut le faire simplement avec la voix, avec la guitare, mais on reconnaît l'air. Donc voilà, c'est ça, pour moi, on reconnaissait l'air d'Ulysse. Donc c'était parfait.
C'était super. Vraiment, c'était mon premier spectacle. J'étais petit, j'étais CM2, 6e, et... Vraiment, c'est... Enfin, pour commencer, c'était trop bien, quoi. On avait les yeux qui pétillaient tout le temps. Vraiment, on avait le regard de l'enfant, en fait. C'était vraiment génial, Ulysse. Enfin, comme tous les spectacles que j'ai faits, j'ai tous adoré.
Elle était comment, cette interprétation avec les enfants du groupe Grenade dans Ulysse?
Alors, elle était à la fois très disciplinée. C'est-à-dire qu'on sentait qu'ils avaient bien appris les choses. Donc ça, pour moi, c'est très beau d'avoir la clarté. Et puis en même temps, le petit grain de folie, ou parce que dans mes pièces, il y a toujours une ouverture sur une forme d'improvisation pour justement laisser la place au présent. Et donc, du coup, ce qui aurait pu être trop construit, trop discipliné, pouvait avoir comme ça des avancées un peu plus folles, ouvertes, libres, beaucoup plus libres. Donc du coup, je trouve que le mélange des deux, ça donne la justesse de l'interprétation. Et les enfants sont encore plus faciles avec ça, parce qu'ils aiment bien apprendre. Moi, je trouve que c'est étonnant quand ils ont un truc, ils sont sérieux, ils veulent y arriver. Et puis en même temps, dès qu'on leur donne la liberté, ils sont pleins d'énergie, ils ont une folie qu'on perd un peu quand on est adulte. Hein, je vois. Moi, c'est plus difficile d'arriver à déstructurer des danseurs qui ont une discipline trop grande, parce qu'ils ont un formatage. Donc, dans ma compagnie, ils comprennent ça. Au bout d'un moment, ils l'ont, et ils passent très bien d'un truc à l'autre, de la discipline à la folie. Mais quand les gens rentrent dans la compagnie, c'est compliqué, en fait. Parce que ceux qui sont trop dingues, il faut leur apprendre qu'il y a une chose à respecter, et ceux qui sont trop respectueux, il faut leur dire aussi qu'il faut qu'ils se lâchent de temps en temps. Donc voilà, c'est cet équilibre-là que les enfants de Josette avaient très très bien. Donc dans Ulysse, c'était parfait, puisqu'il y avait cette double identité.
2014, Josette Baïse monte Guests et propose à de grands noms de la danse de faire interpréter une de leurs pièces par les jeunes danseurs. Ainsi, l'américaine minimaliste Lucinda Childs, l'anglais Wayne McGregor, le portugais Rui Hortas et les israéliens Ofer Chester et Emmanuel Gatt viennent jusqu'à Aix-en-Provence répéter avec les jeunes artistes. Guests, un spectacle étonnant, de grande qualité, qui s'ouvre avec une chorégraphie d'Alban Richard, Trickstars.
Bon, est-ce que juste on danse juste alors
à partir du bas, c'est ça, on fait ralenti.
Après je fais vague. Encore toi, t'as fait.
Non, ben on fait le truc.
Tu fais vase, on se raconte vite, Brax, on se raconte vite.
Brax !
Cinq garçons en t-shirt et pantalons noirs se tiennent debout face à nous, chacun sur une petite estrade d'environ 1 mètre carré. La musique rythmée débute. Les mouvements désarticulés s'amorcent, visages déformés et grimaçants, regards menaçants. Puis les gestes s'accélèrent, les mêmes poses, avec quelques variantes, s'enchaînent. Enfants transformés et surprenants, jeux frénétiques jusqu'à la transe, le spectacle est fini. 5 garçons se tiennent debout face à nous, souriant, à bout de souffle. Une chorégraphie d'Alban Richard pour Guests.
Là, on a fait une transe chorégraphique avec des gestes qui permettent d'exprimer un peu la colère qu'on a à la fin, toute l'énergie qu'on a. Et après, on va au sol et on se jette sur les spectateurs pour crier, leur faire peur. En fait, tout au long de cette scène, on représente des démons. Et à la fin, c'est le point le plus fort, la transe, le maximum. Et on fait un dernier cri. Ouais.
Voilà. Difficile de parler, là. T'es un peu à bout de souffle, hein.
Enfin, oui, c'est très physique. Pendant 10 minutes, ouais, ça c'est chaud.
La chorégraphie fait 10 minutes.
Ouais, hein. Voilà, c'est ça, la pièce.
Ouais, elle est intense, hein.
La toute première partie, c'est vraiment pour montrer les positions aux spectateurs. Parce qu'après, en fait, toute la scène, c'est tout le temps répétitif. On refait tout le temps les mêmes positions à la suite, mais en rajoutant quelque chose. Des fois, on les saccade vraiment. Des fois, on les fait sans s'arrêter, sans faire de pause, ni rien. C'est assez spécial, le début.
C'est très lent, c'est moelleux, c'est matiré. On est comme du Nutella, ils disaient souvent, dans du miel. On se déplaçait dans du miel, comme ça, pour arriver à la position. La toute première, la mienne, on se monte comme ça.
C'est-à-dire ?
Elle est bien pliée, comme ça, avec le bras sur le côté.
D'accord. Et la seconde ?
Il y a le dos tourné, jambes croisées, un bras tendu.
Ça fait penser un peu à une statue indienne, non ?
Oui, c'était plus censé faire penser aux gargouilles. Mais...
Aux gargouilles.
Ouais. Ça fait plutôt penser aux gargouilles au Moyen-Âge qui faisaient frayer les personnes qui regardaient la cathédrale. Et c'était aussi pour garder apparemment les gens des mauvais esprits.
D'accord. Vous en êtes inspiré vraiment de ça, des gargouilles ?
Ça part de croquis de danse macabre, donc des squelettes. Donc déjà, à la base, le thème pour des enfants pourrait paraître un petit peu à côté de l'enfance. Mais en fait, ils ont une façon qui fait que justement, là où ça pourrait devenir un peu bizarre, moi je trouve que eux, précisément, ils ont une façon d'emporter l'histoire vers eux et vers quelque chose de quand même plus enfantin, ce qui fait que à chaque fois qu'ils ont des grimaces de mort, hein, puisque c'est ça qui est gênant, c'est que c'est la mort, ils travaillent la mort puisqu'ils travaillent la danse macabre. Donc forcément, c'est complètement antinomique avec l'enfance. Donc c'est ça qui est gênant. Après les mouvements, ils sont très puissants parce que ils sont vraiment dans l'argile, hein, c'est vraiment des changements de posture. Et en plus, sur 10 minutes, c'est des changements de posture. Ils ont 10 postures à partir desquelles ils vont enchasser les 10 minutes sur des comptes qui sont complètement tarabiscotés, qui sont jamais les mêmes. Et ils vont monter ça en transe. Donc c'est vrai que pour des enfants, ça parle pas de l'enfance. Et pourtant, ce sont des enfants qui le font.
Mais qu'est-ce qu'ils en disent, les enfants ? Qu'est-ce qu'ils en ressentent dans des pièces très fortes comme ça ?
Alors par exemple, Alban Richard, ça n'a pas du tout fonctionné avec les filles. Il y avait un cast de filles, hein, parmi celles-là, il y en avait qui le faisaient. Mais la féminité, justement, des petites filles faisait que de devenir comme ça des espèces de monstres, hein, parce que c'est autant ça plaît aux garçons, mais beaucoup moins aux filles. Donc ça n'a pas bien fonctionné avec les filles, par exemple. Et alors que les garçons, ils adorent ça. Ils adorent ça, se métamorphoser en gargouille, parce que c'est le thème des gargouilles aussi. Hein, ça leur parle complètement. Alors c'est dur ce qu'ils font, mais eux, après, les garçons qui font ça, ils sont spéciaux aussi. Hein, c'est vraiment des gars qui ont une intelligence de mouvement comme j'ai rarement vu quand même. Hein. Mmh. Rarement. C'est incroyable. Et ça me motive énormément parce que je sais que ce que je vais dire va être compris immédiatement. Et va être même sublimé, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire encore mieux que ce que je pensais, même si c'était moi qui l'avais chorégraphié. Donc du coup, eux aussi, ils me provoquent des émotions et des envies qu'après je peux mettre sur scène complètement.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... C'est le moment là où Alice, elle découvre la forêt. Enfin, elle n'en peut plus, elle court. Parfois, elle tombe et...
Alors, concrètement, comment ça s'est passé, par exemple, sur la création sur laquelle vous travaillez, Alice ?
Oui, voilà. Alice, au départ...
C'est les premières notes, là ?
Qu'est-ce que c'est, ça ? J'avais écrit, j'en ai perdu la moitié. Je parlais de la démesure d'Alice, de mettre en espace cette démesure de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de la vitesse au ralenti, de la hauteur à je ne sais même plus ce que j'ai écrit, l'horizontalité, les enfants mettront en scène un affolement de la matière, du temps, de l'espace, en s'intégrant à l'intérieur d'images vidéo, qui accentueront la perte de repères qu'il y a dans le livre de Lewis Carroll. Voyage initiatique, commençant dans une sombre forêt pour finir au plus profond de soi-même, des interrogations multiples de l'enfance à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à cette petite fille, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect psychanalytique de l'affaire, à savoir, ça ne m'intéresse pas de mettre en scène des personnages d'Alice, par exemple. Pour moi, c'est l'énergie d'Alice, c'est les questions qu'elle se pose, c'est la démesure qui s'inscrit dans son corps lui-même. Et ça, c'est très inquiétant. Moi, je trouve que c'est un conte qui est extrêmement inquiétant parce qu'on peut aller elle se transforme même par moments. On a l'impression de voir un avatar, c'est-à-dire c'est des êtres humains qui se transforment tellement qu'on ne sait plus qui ils sont ni où est leur personnalité propre, puisque elle-même ne sait plus ce qu'elle est. C'est un voyage qui est quand même très effrayant. À un moment donné, elle dit il se noie dans un torrent de larmes.
Elle est très joyeuse, mais en même temps, elle ne sait pas si il faut vraiment qu'elle soit confiante, parce qu'il y a des gens, mais elle ne sait pas trop qui c'est. Et en même temps, elle est un peu déformée, parce qu'elle ne sait pas trop où elle est, et aussi qu'est-ce qu'elle doit évoquer comme émotion.
Donc ça, c'est à la fois c'est très poétique, et en même temps, je trouve que c'est une vision de l'enfance qui est très particulière. Alors dans les contes, on retrouve ça, ce côté un petit peu bizarre, angoissant de l'enfance qui finalement a peur. Donc après évidemment, c'est comme un énorme cauchemar finalement. Mais en tout cas, elle est passée par des étapes qui sont extrêmement inquiétantes et initiatiques.
Je sais pas. Elle est surtout triste, désespérée. Enfin, elle rencontre plein de personnes pas sympathique, et du coup elle a vraiment peur, et voilà,
elle est angoissée. Voilà.
Une fois elle est trop grande, trop petite, on la bouscule de tous les côtés, elle passe par plein de monde, elle se retrouve sous terre ou elle se noie dans ses larmes, donc il y a plein d'émotions dans les scènes.
Souvent j'ai des choses qui me viennent dans la tête. Par exemple, des extraits de films, des thèmes qui me plaisent beaucoup. Je lis aussi des textes à propos d'Alice, des textes qui sont plus psychanalytiques, justement. Et en fait, je mets toutes mes idées sur un papier. Vous voyez, il y a des numéros. Par exemple, un chemin dans la forêt, la nuit, perdu, enfermé dans un espace irrépérable, un labyrinthe, qu'est-ce qu'il y a ? Un océan rouge, à un moment donné. Une folle curiosité, une vigueur intrépide, un esprit de décision. Alice, l'enfant du rêve. Et j'avais même fait, je ne sais pas où il est par contre, un compte-rendu des choses qui m'intéressaient le plus. Par exemple, un fond d'inquiétude au pays des rêves. Opposition cruelle du désir de stabilité, de solidité et de permanence. Dans le rêve d'Alice, c'est la discontinuité, la soudaineté, sans transition, des apparitions et des présences non préparées. Elle est entourée de la fluidité universelle qui la gagne et qui manque de la dissoudre. Et de l'autre côté du miroir, Alice trouve un milieu d'inversion qui atteigne le corps et l'esprit. Et il y en a comme ça une page. Je trouve que c'est magnifique. Et après, quand j'ai vraiment suffisamment d'informations, à ce moment-là, je le mets dans l'ordre. Dans un ordre qui me paraît être intéressant par rapport à, on va dire, il y a la continuité du roman, et après, il y a, à l'intérieur de cette continuité, qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce qui ne m'intéresse pas. Donc, du coup, après, j'ai fait un synopsis de 17 scènes pendant lesquelles Alice va passer, de mon point de vue, par les moments les plus importants.
Alors ça commence par quoi ?
Ben là, ça commence par la leçon d'histoire où elle est censée réviser quelque chose et puis où elle s'endort, puisque c'est quand même un rêve, hein, au bout du compte. Après, il y a une course dans la forêt. Je l'ai travaillée de dos par rapport au public. Une course effrénée où la petite fille déjà est quand même dans un état d'inquiétude, parce que qui n'est pas inquiet dans une forêt sombre, voilà. Il y a après des couloirs qui se referment sur elle. Il y a une chute verticale puisqu'elle tombe vers le bas. Donc ça, c'est très difficile à réaliser. Donc on essaie de travailler sur le sol. Ensuite, il y a la chorégraphie des gâteaux. Donc là, les filles, c'est elles qui viennent amener les gâteaux à Alice, qui évidemment en mange et qui se retrouve beaucoup trop grande. Donc ça veut dire des projections des ombres des enfants sur le cyclo. Ensuite, elle rencontre les méchantes fleurs. Donc là, on va se permettre une petite chose un peu amusante avec des enfants qui ont un costume qui va rappeler quand même des fleurs un peu carnivores.
Hop, hop, là on est en diagonale. Pli, hop, tourner, sauter.
C'est un saut.
Oui, c'est un saut.
Non, mais là c'est.
Hop.
Donc les monstres, ça va être toujours les garçons. C'est eux qui vont amener Alice à changer d'état et à changer de scène. Voilà. Après, il y a un énorme banquet parce qu'elle arrive à un moment donné dans un banquet. Ça m'intéresse parce que créer une sorte de fête avec les enfants, c'est formidable. Mais la Reine Rouge, là, ça va être un des seuls personnages qui va exister, qui arrive et qui met la fin à la fête et qui les transforme en esclaves. Puis, qui s'en prennent à Alice, bien évidemment, comme d'habitude, puisqu'elle est malmenée tout le long du spectacle. Elle est malmenée tout le temps et qui l'amène au tribunal pour être jugée. Et c'est à la fin de ce tribunal, quand vraiment on se dit que ça va devenir terrible pour elle, qu'elle se réveille. Voilà, en gros, hein, c'est à peu près le synopsis. Et après, ça peut dériver en fonction de beaucoup de choses, hein, en fonction de l'état d'esprit des enfants, en fonction de ce qu'on peut trouver aussi en improvisation, quand c'est le cas. Voilà, et les enfants composent énormément. C'est-à-dire que je ne suis pas la seule à faire des matériaux, mais les enfants composent, ils sont très proches des contes. Ça leur parle beaucoup plus qu'à nous encore. Ils s'imaginent dans le conte. Et j'ai deux assistantes aussi qui ont commencé avec moi il y a 25 ans, qui composent avec moi, parce qu'on s'entend vraiment bien toutes les trois pour composer des matériaux pour eux.
Il est 7 heures, j'ouvre les yeux, je me lève. Il est 7h30, je suis en voiture, je regarde par la fenêtre. Il fait froid, sombre, et j'ai mon cartable avec moi. Il est 8 heures, je m'assois sur ma chaise, j'écoute le cours. Il est midi, c'est le repas. Je parle avec Flavio, Mathis, Hugo, Romain. Il est 17h, je suis dans le bus. Je suis debout, je regarde par la fenêtre. Je me rends au studio de danse. Je suis dans les vestiaires, je me change avec mes camarades de danse. Je m'entraîne, j'écoute le professeur. Je me sens fatiguée. Je m'applique. Il est 21h. Je suis dans la voiture. Je regarde par la fenêtre. J'ai mal aux jambes. J'ai faim. Je veux rentrer chez moi. C'est dimanche. Nous sommes à Paris. Je dépose ma valise à l'hôtel. Je me rends au théâtre. Il est 20h. Je suis derrière le rideau de scène. Le spectacle va commencer. J'ai le trac. Les projecteurs s'allument. Le rideau se lève. Je vois les spectateurs. Je danse. Je donne tout. C'est fini. Le public applaudit. Je salue à l'écoute de mes camarades. Je souris. Je suis détendue.
En 2013, Roméo et Juliette voient le jour au Festival d'Aix-en-Provence. Josette Baïs chorégraphie ce drame en accentuant la violence, la passion et l'inconscience des adolescents. Une pièce classique remontée en 2015 avec une nouvelle distribution et produite encore dans de nombreux théâtres.
Alors, on va mettre le DVD, ça ira plus vite. On peut se faire un suer. Il va direct. Je vais aller plus loin.
Ouais.
Alors là, on en est à la troisième scène. En fait, c'est l'enfance de Roméo et Juliette. Moi, j'ai imaginé qu'il y avait l'enfance et que les Roméo et Juliette étant enfants, déjà commençaient à se chamailler, à se battre. Et en fait, je fais intervenir les plus petits un certain nombre de fois pour soit préparer ce qui va se passer après, soit pour apaiser, soit pour annoncer un peu. C'est comme un peu des petits anges qui vont annoncer ce qui se passe après. Donc là, il y a les petits, et de suite après, il y a les grands qui rentrent, et là où c'est la vraie bagarre entre les Montaigu, et c'est pour ça qu'il y en a des rouges et des bleus, c'est vraiment la bagarre entre les Montaigu et les Capulet. Donc là, il y a toute une série de bagarres, et puis après, progressivement, on va tomber sur... Donc là, c'est vraiment la première rencontre, quand ils ne savent pas encore ce qui va se passer, quand c'est vraiment le début d'un émoi qu'ils ressentent. Donc là, c'est un duo, par exemple.
On est tous Roméo et Juliette à un moment, et quand on fait des duos, surtout...
Mmh. Elle est comment, cette Juliette que tu interprètes?
Amoureuse. Ouais, c'est ça.
Comment c'était d'interpréter un personnage amoureux pour toi?
Ben, c'était pas facile, surtout quand on n'est pas amoureuse de la personne avec qui on le fait, les duos. Mais ouais, c'est amusant de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expressions, ça.
Mais après, c'est vrai que les Roméo et les Juliette s'enchaînent, c'est-à-dire je ne prends pas le même, et ça change là, par exemple, d'une distribution à l'autre. Lui faisait le plus petit Roméo à l'époque, maintenant c'est lui qui fait le final et qui fait la mort de Roméo à la fin. En me servant de tous les jeunes comme Roméo et toutes les jeunes filles comme Juliette, à ce moment-là, on a un investissement qui est beaucoup, beaucoup plus grand au niveau de l'émotion. Il ne reste pas extérieur au conte, à l'histoire.
Allô, allô. Les enfants, vous pouvez mettre en position, hein, ceux qui savent.
Ici, 2, 3.
Lola,
Lola.
On représente les petits Juliette et Roméo qui pour l'avenir en fait. Ils rigolent ensemble, mais ils sont aussi, ils savent qu'ils sont pas dans la même famille. Enfin, c'est entre les deux. Non, ils sont pas encore amoureux. C'est quand ils seront grands. Il y a la troisième scène, mais là c'est plutôt la bagarre entre où on réalise vraiment que entre les Montaigu et les Capulet, c'est vraiment la guerre, vraiment la haine. On s'aime pas.
D'accord. Et t'as réussi à faire sortir la colère, la haine à ce moment-là?
Oui, on a eu beaucoup de temps pour s'entraîner. On a eu un an et demi. Et puis surtout, quand t'es sur scène, tu sens tout de suite l'adrénaline qui monte. Et ça te donne le petit truc qui fait que... Bah, que ce que tu ressens, bah, tu l'as. Tu es dans le personnage. T'es vraiment, même si ce sont tes amis en dehors, quand t'es sur scène, tu les aimes pas. T'as pas envie de leur parler. T'as envie de leur donner des coups. Enfin, voilà, c'est vraiment sur scène. On est dans notre personnage.
Attention. Donc 2000 pour tout le monde. 7, 8, on y va tout de suite. Et 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Allez, va. 8 et 2, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on va faire.
Et donc après, nous avons la fameuse danse des chevaliers. Derrière ça. que voilà, on a deux camps qui ont la même colère intérieure, qui ont la même rage. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est vraiment cette rage qui est à l'intérieur du corps, puisque souvent c'est des mouvements qui sont à l'intérieur de la cage thoracique. Voilà, et donc c'est de la confrontation. Les rouges contre les bleus, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça dans Roméo et Juliette.
Dans vos chorégraphies ou même de chorégraphes avec qui vous travaillez, on entend souvent la voix finalement, le cri.
Moi j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on les ressent encore plus que quand il n'y a que le mouvement qu'il a. Quand il y a la voix aussi, c'est vraiment quelque chose de très fort. Surtout qu'on ne s'attend pas à voir ça d'un enfant. On n'attend pas à ce qu'il sorte des cris, des hurlements. C'est très très curieux. Ça. Parce qu'il y a deux sortes de chorégraphes, j'ai envie de dire, si on veut synthétiser, schématiser à mort. C'est les chorégraphes, on va dire, abstraits. Et ceux-là, souvent, il n'y a pas forcément de travail de voix. Et les chorégraphes narratifs, dont je fais partie, et qui, eux, comme Damien Jallet, par exemple, a besoin de raconter quelque chose. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas. C'est vraiment par rapport à la théâtralité, je pense.
Quels sont vos maîtres à vous, Josette Baïse?
C'est Trisha Brown, parce que Trisha Brown, pour moi, c'est vraiment la représentation de l'ouverture du corps, de l'ouverture de la liberté du corps. Voilà, et ça, pour moi, c'est le principal. C'est vraiment cette espèce de vacuité qu'on peut mettre à l'intérieur du corps pour faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'est Trisha. Donc je me sers, évidemment, là j'ai fait un hommage à Trisha, c'est pas pour rien, parce que je me sers, évidemment, de ses préceptes. Par exemple, elle travaille en line-up, c'est une série d'improvisation en ligne qui se fait. Moi, je travaille tout le temps comme ça avec les enfants. Elle travaille en même temps avec une liberté qui tient beaucoup de l'humour aussi par moment. Et moi, c'est vraiment... mon maître à penser, ce serait plutôt elle quand même, globalement.
Hop, je développe mon bras et là, je vais donner un petit accent du coude, comme si j'allais tomber. Hop, encore une fois, hop. Ok, je tourne le bassin et rapidement je me retrouve de dos. Maintenant c'est ma main qui va tirer au fil et je repars avec un chameau de l'autre côté, avec la tête qui va se transformer en chameau. Hop, ok, bien. Maintenant tu finis avec comme si tu allais faire un pop bloqué du corps, tout le corps. Donc je bloque deux fois, hop. Hop. Et ensuite, tu vas mouliner avec ton... Je mouline avec mon buste. D'avant en arrière, j'isole vraiment cette partie du corps. Voilà. Sont vraiment habités par le personnage. Donc des fois, ils se mettent à pleurer sur scène parce qu'ils sont tellement dans l'histoire et dans leur personnage et dans ce qu'ils ressentent au fond d'eux que ça se sent dans leur danse. Et ça, c'est fort pour un enfant de faire ça.
Dans toutes les chorégraphies?
On peut dire ça, dans toutes les chorégraphies, mais c'est vrai que dans Roméo et Juliette, voilà, ça finit en drame quand même. Donc c'est vrai que la jeune qui s'appelle Luna, qui faisait donc Roméo et Juliette... Juliette qui meurt à la fin, là, elle était transportée, habitée. Je sais qu'elle faisait le fantôme de Juliette, où elle se retrouve toute seule, perdue. En fait, c'est... Voilà. Elle lâche tout, là. Elle lâche tout le spectacle d'une heure, tout ce qui s'est passé pendant une heure. Ben là, on le ressent, mais... Voilà. Et moi, je sais que des fois, dans les coulisses, je regarde et j'ai envie de pleurer, quoi. Vraiment. Voire même pleurer, déjà.
De la grenade sortiront 1000 enfants. Expression reprise par Josette Baïz au moment de la création de sa compagnie de jeunes danseurs. Effectivement, de la grenade sont sortis des dizaines d'enfants, des danseurs, tous plus talentueux les uns que les autres. Et ils n'ont pas fini de nous étonner. Alors que les danseurs adultes perpétuent la transmission de la danse dans les écoles des quartiers nord de Marseille et d'Aix-en-Provence, le groupe Grenade tourne sur toute la France, voire à l'étranger. Leurs spectacles sont beaux, bouleversants et étonnants. Et pourtant, ce n'est que du bout des lèvres qu'ils se disent artistes.
Je m'appelle Romane Poussardin, j'ai 16 ans et demi. Et je suis à Grenade depuis le CM2, à peu près j'avais 10-11 ans. Il faut vraiment suivre scolairement parce que louper une semaine, parfois une fois par mois, c'est pas rien, surtout qu'on fait ça depuis longtemps. Donc les profs sont pas mal au courant et de notre parcours à la danse. Et voilà, sinon les tournées c'est génial, on a un bon rythme et c'est cool d'être avec nos amis. Bon, voilà.
Tu es en quelle classe maintenant ?
Première ES, je suis au lycée et donc, voilà. Je veux pas forcément être danseuse plus tard, du coup, faut bien prendre une décision. C'est soit les études, soit la danse, parce que quand on commence à être dans des classes importantes, il faut quand même vraiment beaucoup suivre et on peut pas se louper. Quoi.
Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ?
Paramédical ou kiné, toujours pour rester en contact avec le sport quand même. Enfin voilà.
D'accord. Tu aimerais bien rester en contact avec l'expression artistique ou le sportif, mais sans être toi-même artiste.
Ouais, oui, voilà, parce que même pour le corps, c'est dur quand même d'être toute l'année, toutes les semaines, tous les jours au sport. C'est beaucoup d'entraînement et le corps, parfois, il en peut plus, quoi. Mais ça me plairait d'être kiné-ostéo, de suivre le parcours d'un sportif, ou pourquoi pas.
Partez d'Odulé, Brian. Et deux millets entre Muriel et Raph. Et voilà, là c'est bon pour moi. 7, 8, et go!
Pour vous, c'est quoi un artiste?
Quelqu'un qui partage ses idées avec les personnes qui l'entourent.
Et pour toi, c'est quoi un artiste ?
Bah, pour moi, un artiste, c'est pas vraiment quelqu'un qui va exprimer ce qu'il ressent avec la parole, mais plutôt avec des gestes ou alors avec des sentiments qu'on va voir à travers le visage, les yeux, enfin les parties du corps. Et par exemple, un artiste, il va pas forcément être bon parce qu'il va faire 4 tours pirouettes, mais il va peut-être aussi bon parce qu'on va ressentir des choses quand on va le voir. On va voir, par exemple, sur une scène triste, qu'il est triste, ou alors qu'il est dynamique sur une scène avec la musique qui pète, enfin, plein de choses.
Et pour toi, c'est quoi un artiste ?
Un artiste, c'est quelqu'un qui libère, quand on lui demande d'avoir une émotion particulière dans les scènes, ou faut réussir à la transmettre au public, qui ressent vraiment l'émotion qu'on essaye de leur transmettre.
Et toi, tu réponds à la question ?
Un artiste, oui, doit avoir beaucoup d'émotions quand il danse. Et puis toute son énergie doit être dans ses mouvements, c'est-à-dire que tous les mouvements qu'il doit faire sont à fond. Et ils mettent beaucoup de présence, d'énergie, d'émotion. Il faut vraiment incarner le personnage qu'il doit avoir. Donc ouais, les émotions, c'est très important.
Est-ce que toi, tu es une artiste ?
Une artiste, j'irai pas jusque-là, mais... Un enfant, oui, mais qui apprend beaucoup de choses à Grenade et on va le devenir, on essaie de le devenir, un artiste. Donc après, quand on est sur scène, forcément, oui, on devient un artiste un petit peu.
Et toi, tu es un artiste sur scène ? Viens, approche.
Je pense que je suis encore un peu jeune pour être un artiste quand même.
Il y a un âge pour être un artiste ?
Non, mais j'ai encore beaucoup de travail, je pense. Parce que, voilà. Je sais pas trop comment dire, je sais pas trop de technique, on va dire, du coup, faut travailler encore.
C'est la technique pour toi qui est importante
non,
aujourd'hui ?
Non, il y a tout qui est important, mais j'ai de grosses lacunes sur la technique. Mais sinon, en fait, on peut dire quand on monte sur scène, en fait, en quelque sorte, on est des artistes un peu. Parce qu'on va représenter des personnages précis, en fait. Et donc, une fois sur scène, oui, on est tous des artistes, et même si on a encore beaucoup à apprendre. On est quand même des apprentisseurs artistes, on va dire.
Apprentis.
Ouais, apprenti artiste.
Josette, elle s'est inspirée de ça. Elle a voulu créer un groupe qui s'inspire d'enfants, d'émotions, de tout ce qui peut se passer dans la vie quotidienne. Et oui, en quelque sorte, oui, on est des artistes. Avec Josette, on est des artistes, oui.
C'est Josette qui vous rend des artistes.
Oui.
Josette, elle veut vraiment montrer que les enfants peuvent donner autant que des adultes.
Ouais.
Tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, bah, je suis d'accord avec ce que dit Romane, même peut-être un peu plus, parce que la créativité enfantine, on se rend pas compte parfois de ce qu'on dégage quand on est un enfant. Et alors qu'un adulte, il se rend compte et il prend en compte de ce qu'il dégage. Alors qu'un enfant, ça prend pas forcément en compte ce qu'il dégage, donc ça crée un nouveau style, pas d'art, mais de sous-art, quoi.
De quoi?
Pas d'art, mais de sous-art.
De sous-art.
Sous-art, les enfants, c'est des sous-artistes. Qu'est-ce que c'est un artiste pour toi?
Un artiste pour moi, c'est quelqu'un qui sait être humble et qui arrive à faire tout ce qu'il doit faire correctement.
Et est-ce que ce sont des artistes, les enfants de Grenade?
Je dirais oui.
Monique Brun, administratrice du groupe et de la compagnie Grenade.
Parce que il y a une expression artistique. De fait, quand ils sont sur scène, il y a quelque chose qui est transcendé pour eux. C'est vraiment... Il y a une... Comment dire ça?
Est-ce qu'ils vous touchent?
Oui, beaucoup. Beaucoup. J'ai le souvenir en fait de spectacles où j'ai les larmes aux yeux en fait. J'ai le souvenir, oui.
Mais alors eux, je leur ai posé la question, ils ne se voient pas artistes.
Oui.
Ils disent qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre.
Bah oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut être artiste sans avoir la technique initiale. C'est une démarche, à mon avis.
Mais alors, ils prennent ça quand même très au sérieux. Ça,
pour... Ah ben oui. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que ça aussi a le rapport à l'humilité qu'il aurait aussi proposé. Après, un artiste n'a pas forcément la sensation d'être artiste. Enfin, c'est des choses... Alors là, c'est vraiment une interprétation personnelle de ce que peut être un artiste, mais je crois pas qu'on se décrète artiste. Quand un enfant va sur scène, il est plus le même après. Du coup, son rapport à la danse, son rapport à l'art, juste l'art chorégraphique est complètement modifié. C'est là la différence, c'est en ça que je dis qu'ils sont artistes. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont passés sur scène, oui, ils ont dépassé quelque chose, ils ont transcendé tout le mouvement, la musicalité, tout. Et ils sont... ils sont artistes, peut-être, sans le savoir.
Attends, on le fait juste... Est-ce qu'on peut juste le répéter une fois? 1, 2, 3... Non, mais dans le rythme.
Dans le rythme. C'est ça, le rythme.
1, 2...
Non, c'est comme ça, mais c'est beaucoup plus rapide.
7, 8, et tendu, plié, et tendu. Sans plier devant. Hop, tendu, voilà, là, je suis d'accord, ça t'a dîné en bas. Allez, les bras, Sarah, plus méchant que ça, les bras. Voilà, accent, et hop, et... Tchao!